Bonsoir, les chiffres sont vertigineux. 700 000 tonnes de vêtements sont consommées en France chaque année avec ce double problème. Un impact terrible sur l'environnement et une confection dans des conditions plus que discutables. Par exemple, le jean que vous portez aujourd'hui, il y a une chance sur trois pour qu'il vienne du Bangladesh, là où les ouvriers sont parfois des enfants et travaillent pour moins de 70 euros par mois.
L'endroit où on travaille, l'eau, les produits chimiques, les fumées, ça nous infecte, même si on utilise des masques. Parfois, ça m'arrive d'avaler la fumée et j'ai envie de vomir. Nous travaillons pour de très grandes marques. Ils font des millions sur notre travail, mais nous, on n'a rien en retour.
Alors, comment faire pour s'habiller sans se ruiner, mais sans exploiter non plus, ni mettre en danger les ouvriers des pays pauvres, s'habiller sans détruire la planète par les pesticides, par le pétrole, par l'eau utilisée pour la confection? Nous recevons ce soir Majdouline Sbaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue spécialisée dans les questions d'environnement et selon vous, d'ailleurs vous en avez fait un livre qui s'intitule ainsi, une mode éthique est possible ?
Elle est possible et elle est nécessaire et elle est même déjà là, puisqu'il existe un grand secteur d'activité qui se développe et qui est totalement éthique.
Et qu'on va découvrir jusqu'à 20h. Avec vous ce soir en studio, Christelle Merter, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieure textile et cofondatrice et aujourd'hui directrice de la Gentle Factory, une marque de vêtements écologiquement et socialement éthique. Donc oui, mode et éthique, c'est désormais compatible.
En tout cas, on fait tout notre possible pour le faire.
Alors, on attend toutes vos questions et vos remarques au standard du téléphone sonne 01 45 24 7000, la page de l'émission franceinter.fr. Quel est le prix de l'éthique sur l'étiquette? Sommes-nous prêts à le payer? Et comment s'y prendre concrètement? Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Allez, on va se lancer sur l'aspect environnemental de la production de vêtements. Je ne vais pas vous assaillir de chiffres ce soir, mais quand même. Pour confectionner un t-shirt, il faut 2700 litres d'eau, c'est-à-dire ce que consomme un individu en 3 ans. Pour un jean, il faut compter à peu près l'équivalent de 300 douches. Alors en France, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, travaille sur le sujet, notamment avec des entreprises volontaires comme Decathlon ou Okaidi. On se dirige vers quelle conclusion ? Majdouline Sbaï.
Le premier élément, c'est la forte croissance de la consommation de vêtements dans le monde, puisqu'on a doublé, on est presque triplé cette année, depuis 2000, le nombre de vêtements produits dans le monde. Donc forcément, si on produit des vêtements dans des conditions majoritairement sans se soucier vraiment des impacts sur l'environnement, eh bien, on a un impact qui est croissant et c'est ce qui conduit à faire effectivement de la mode un des secteurs les plus polluants. Un des chiffres qui illustre bien ça, c'est justement les émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que l'industrie de la mode émet plus de gaz à effet de serre, enfin a plus d'impact sur le dérèglement climatique que le transport aérien et le transport maritime, on se rend compte de la masse du problème auquel on a à faire face.
Parce qu'il y a aussi la consommation d'eau, on l'a dit, et il y a les pesticides.
Oui, c'est
il y a le pétrole.
Voilà, les pesticides, c'est pour la culture du coton, 25% des pesticides du monde. Et l'impact sur les milieux est donc considérable. Et donc c'est une très grande industrie qui, par ses modes de fabrication, à ce jour, émet beaucoup de pollution et a de gros impacts sur le milieu. Mais c'est pas inéluctable.
Ça commence à se savoir, l'ADEME et certaines marques s'en saisissent, Christelle Merter.
Oui, en tout cas, nous, c'est notre ADN de base. On est né du recyclage des vieux jeans pour essayer justement de se dire qu'on allait éviter de reproduire de la matière première en la retransformant en nouvelles fibres pour en refaire de nouveaux produits. Et on s'est rendu compte en faisant cet exercice-là qu'on réduisait par deux tous les indicateurs environnementaux quand on regarde l'impact sur l'environnement d'un produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à ce que le client se sépare du produit une fois qu'il n'en veut plus en fin de vie.
Mais le client, il achète en toute bonne foi. C'est quand même assez difficile de savoir. L'idée pour vous, ça serait que le consommateur soit au courant du coût environnemental de ce qu'il s'apprête à acheter avant de passer en caisse.
Disons qu'il y a deux. Enfin, je pense que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'évidemment, le consommateur, mieux il est informé, plus c'est le plus transparent possible, plus on lui donne la possibilité de choisir. Et ça, c'est déterminant. Donc, aujourd'hui, on parle d'affichage environnemental pour l'habillement, qui devrait peut-être arriver l'année prochaine, un peu comme ce qu'on a pour l'électroménager.
Mais quand vous dites arriver l'année prochaine, de façon obligatoire. Hein.
Oui, enfin, on en parle. Donc, il y a un travail qui est lancé. C'est inscrit dans la feuille de route du ministère de l'Environnement pour l'économie circulaire, parce que c'est important d'informer les consommateurs. Il existe aussi, je dirais, la possibilité, sans parler simplement d'affichage environnemental, pour les consommateurs de se tourner dès aujourd'hui vers des modèles de consommation qui sont plus durables. C'est consommer moins, mais mieux, tout simplement.
Oui, parce qu'il y a la pollution qui est engendrée par l'aspect jetable des vêtements que nous achetons et que nous portons. Est-ce qu'on est encore en 2018 sur un modèle vendons toujours plus et, ma foi, bah, tant pis si le consommateur jette toujours plus ? Christelle Merter.
Je pense que tout dépend des marques. Effectivement, aujourd'hui, pour moi, il y a deux types de mode, la fast fashion et la slow fashion. La fast fashion où effectivement on est dans un modèle où il faut réassortir très rapidement pour provoquer le désir et pour que le client ait envie d'acheter. Et il y a d'autres marques qui se sont positionnées plutôt sur un concept de slow fashion sur lequel effectivement on est sur du, comme le disait Majoline, consommer moins mais mieux avec des produits fabriqués dans des conditions éthiques ou les plus éthiques possibles et aussi des produits de qualité, parce que finalement, le produit qui est le plus durable d'un point de vue environnemental, c'est le produit qui va continuer à vivre le plus longtemps possible.
Majdouline Sbaï, les marques doivent maintenant clairement choisir leur camp.
Oui, et elles doivent le choisir pour des raisons environnementales. Il y a une nécessité morale, on l'a dit avec tous les impacts environnementaux qu'on a cités. Mais la fast fashion atteint ses limites aujourd'hui. D'une certaine manière, on se rend compte qu'il y a une saturation du marché, que 12 000 vêtements par an, comme Zara par exemple, chaque année, propose 12 000 modèles différents. Et l'accélération, avant il y avait deux saisons, les deux saisons du catalogue de la Redoute. Aujourd'hui, on a un réassort qui est permanent dans les boutiques. La mode est considérablement accélérée, toujours plus vite, toujours moins cher, toujours produit plus loin. Et donc, ça entraîne quand même une course folle qui a des impacts aussi économiques. C'est-à-dire que les marques, certaines marques, en tout cas, notamment françaises, ne s'en sortent pas. Donc aujourd'hui, finalement, choisir un autre modèle de développement de leur entreprise, de maintien aussi des emplois, c'est une formidable opportunité pour être plus durable, mais dans tous les sens du terme, pas simplement du point de vue écologique, mais aussi du point de vue économique.
Je vous propose de rejoindre Nadège qui nous attend à Bordeaux. Bonsoir Nadège. Soyez la bienvenue, vous avez composé le 01 45 24 7000 pour intervenir et pour poser une question à nos invités. Bonsoir.
Bonsoir. Donc en fait, moi j'appelle pour la raison suivante. J'ai mis en place en 2015 une société sur la région de Bordeaux qui s'inscrit dans de l'économie circulaire et dans du retraitement de matières qui étaient considérées comme un déchet, puisque je propose en fait des ceintures qui sont réalisées à partir de pneumatiques de vélo qui étaient donc en fin de vie.
Et vous souhaitez témoigner et interroger nos invités sur le développement de ce type d'initiative. Vous vous sentez un peu seul à Bordeaux ou à votre connaissance, il y a d'autres tentatives, d'autres expériences qui sont menées
sur Bordeaux
ou ailleurs en France?
Alors bien évidemment, alors quand j'ai commencé, moi j'étais plutôt seule. Maintenant, bon, ça fait des émules et il y a des gens effectivement qui s'y mettent et c'est très bien. Après, bon, chacun développe de la façon dont il le souhaite. Et mon témoignage, c'est sur le fait que on peut effectivement s'habiller éthique, puisque j'utilise une matière, je remets une valeur sur une matière. Et le résultat est tout à fait chic.
Chic et éthique. Merci Nadège de votre témoignage. Majdouline Sbaï, vous avez créé une plateforme d'artisans qui s'appelle Après la chute. L'objectif, c'est d'impulser une économie circulaire. C'est ce que fait Nadège. Vous récupérez des chutes, alors là en l'occurrence de textiles, mais vous leur donnez une deuxième vie. Expliquez-nous.
Oui, alors ça c'est une initiative que j'ai prise en réunissant des designers qui étaient engagés dans le recyclage en fait de matières textiles, donc de chutes.
Dans votre belle région des Hauts-de-France.
Dans la belle région des Hauts-de-France, puisque il y a beaucoup de jeunes créateurs qui tout de suite ont décidé de s'orienter vers de l'éco-conception et de réduire justement les impacts environnementaux de la production textile. Ce que je fais aussi, c'est que j'organise un événement avec une association qui s'appelle Nordcréa, qui s'appelle les Fashion Green Days, qui est le forum de la mode circulaire. D'ailleurs, la Gentle Factory y a participé l'année dernière. Et ce type d'initiative dont Nadège vient de nous parler à Bordeaux, il y a toute sa place. C'est-à-dire qu'on montre toutes les créations possibles, les initiatives, les entreprises possibles qu'on peut créer dans le domaine de la mode circulaire et qui sont aussi créateurs d'emplois. Et dans mon livre, effectivement, il y a aussi un répertoire des initiatives, des entreprises, des créateurs qui sont engagés dans ces dynamiques. Donc l'idée, c'est de rassembler nos forces pour montrer que l'alternative est largement possible aujourd'hui.
Et que ça peut fonctionner, c'est-à-dire que vous prévoyez l'ouverture d'un magasin bientôt ?
Oui, alors il y a
avec
beaucoup,
ces produits,
beaucoup d'initiatives qui existent, dont effectivement une collaboration avec Oxfam France, par exemple, où on essaye de repenser ce que serait un magasin de mode aujourd'hui fait avec du seconde main. Parce que c'est important de le dire, il y a évidemment ce que fait la Gentle Factory avec en recyclant des matières et en refaisant des nouveaux vêtements, et Christelle pourra en reparler. Et il y a aussi le formidable vivier que constitue le marché du seconde main, qui est une Française sur deux déclare dès aujourd'hui acheter des vêtements de seconde main. Et on sait, il y a des études qui montrent que d'ici 2027, c'est un marché qui connaîtra un essor peut-être plus important que celui de la fast fashion. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je veux le rappeler. J'ai dit, oui, moi je crois que c'est un secteur il faut prendre ce virage, y compris pour que la France continue, et notre région des Hauts-de-France, dont je suis originaire, continue à être un des leaders dans le
domaine. Mais acheter un vêtement de seconde main, on peut s'arrêter un instant là-dessus, un pantalon d'occasion, est-ce que ce qui était avant vu comme un signe de déclassement social, ça devient tendance ou en tout cas normal, Christelle Merter ?
Je ne sais pas si ça devient normal. En tout cas, il y a l'essor de plein de plateformes collaboratives qui permettent effectivement d'échanger des vêtements de seconde vie. Je pense à Vinted notamment, qui a un essor important en termes de nombre d'adhérents et qui touche à la fois l'homme, la femme et l'enfant. Et ça concerne beaucoup le public féminin qui passe beaucoup de temps pour échanger ses vêtements. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un vrai... Les gens sont à la fois dans de la consommation d'achats neufs sur des belles pièces de vêtements et sur, finalement, je trouve, une pièce intéressante en seconde main. Donc il y a une vraie révolution de la consommation et on le voit d'ailleurs en phénomène dans le trafic des magasins qui, enfin voilà, on vit une vraie révolution aujourd'hui.
Maj Doulinsbaï, vous nous expliquez qu'il y avait donc trois fois plus de vêtements produits qu'il y a 10-15 ans.
Voilà.
On peut s'arrêter sur la qualité des vêtements produits depuis 10-15 ans. D'abord, est-ce qu'ils permettent ces vêtements, est-ce que cette qualité permet de garder longtemps le produit ou est-ce qu'on a des vêtements de piètre qualité désormais ? Ce qui explique qu'on jette autant, quoi.
C'est un débat qu'on a eu avec notamment des marques de Made in France. Il y a une forme d'obsolescence programmée. Et cette obsolescence programmée, c'est-à-dire que le vêtement a une durée de vie limitée, elle est liée parfois simplement à la tendance. C'est-à-dire qu'au fait que c'est un vêtement tellement pointu de l'imprimé du moment, de la couleur du moment, qu'il a une durée de vie limitée. Et puis, il y a cette envie permanente, c'est-à-dire que avec l'avènement de la société de consommation, les 30 Glorieuses, cette formidable promesse que acheter finalement nous rendrait plus heureux, il y a cette addiction au shopping, au fait de racheter, c'est devenu un loisir, etc., etc. Et il y a le marketing aussi très offensif de certaines marques, il faut qu'on a sans cesse envie d'acheter. Sur la qualité intrinsèque des vêtements, on peut constater effectivement qu'il y a des vraiment parfois, c'est difficile de l'évaluer comme ça parce que c'est très intuitif et c'est plus de l'expérience personnelle, mais qu'effectivement un t-shirt dure moins longtemps selon le type de fabrication de coton qui a été utilisé et son prix initial peut être une indication, mais pas toujours. Le prix ne veut pas toujours dire moindre qualité, mais je pense que Christelle
Merter, oui, vous pouvez compléter sur la qualité du produit.
Sur la qualité du produit, moi je me suis occupée pendant 10 ans de la qualité au mais sein oui. d'un grand groupe.
Alors un grand groupe qui s'appelle Happy Chic, oui. Qui regroupe des marques bien connues comme Brice, comme Jules, comme Bisby.
Oui, et comme la Gentle Factory.
Et désormais comme la Gentle Factory. Donc sur la qualité de ces marques que vous connaissez. En toute objectivité,
je vais m'exprimer du coup sur la qualité des produits de la Gentle Factory.
Non mais l'obsolescence programmée par exemple, c'est quelque chose qui est connu aussi dans le monde du textile ?
Pour moi, il n'y a pas d'obsolescence programmée en tant que telle, enfin, à part sur le fait qu'effectivement, on est là aussi pour répondre à la mode du moment. Et donc, effectivement, de mettre le bon produit qui va correspondre à la volonté d'achat du client. Il faut pas oublier que le développement durable, il se repose sur trois piliers et que l'un des piliers, c'est le pilier économique. On est tous là pour avoir des entreprises qui sont rentables parce que sinon, ben, on sera pas dans le développement durable et on sera pas dans la durabilité de son entreprise.
Et je vous ai interrompu, donc sur la qualité du tissu, la qualité du produit.
Et donc sur la qualité du produit, en tout cas, nous, c'est un véritable combat. On teste tous nos produits et le fait de maîtriser complètement notre chaîne de fabrication, puisqu'aujourd'hui, on sait où on achète notre fil, on sait où on le tricote, on sait où on le teint, etc. On parle à chacun des spécialistes quand on construit un produit de façon à ce qu'on puisse répondre à une qualité qui soit la plus irréprochable possible pour satisfaire nos clients.
Il y a juste un chiffre quand même, il y a 60% des vêtements, enfin on achète 60% de vêtements en plus en moyenne et on les conserve par rapport à il y a 15 ans, on les conserve moitié moins longtemps. Donc même si le vêtement est de même qualité, ce qui est sûr c'est que les gens les conservent moins longtemps et les transmettent moins.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, vous me pardonnerez, mais beaucoup de questions arrivées sur la page de l'émission franceinter.fr vont dans ce sens. Est-ce que le textile éthique, c'est pas une préoccupation de consommateurs aisés, de gentils bourgeois bohèmes qui ont les moyens de mettre 100 euros dans une chemise? En gros, est-ce qu'on culpabilise pas excessivement le consommateur qui est bien heureux de trouver un t-shirt à 3 euros parce qu'il ne peut pas mettre plus? Maj de Linsby.
Alors, moi, je pense que ce n'est pas juste parce que, d'abord, la première chose qu'on peut faire pour acheter éthique, c'est-à-dire acheter des choses qui n'impactent pas, qui ne détruisent pas le vivant et la planète, c'est déjà de bien choisir ses vêtements et d'en acheter peut-être moins, mais mieux. Parce qu'il y a entre 30 et 50% des vêtements que nous avons dans notre placard que nous ne mettons pas, que nous ne portons
même
pas.
Plus, j'avais noté cette statistique effrayante, 70% de notre garde-robe ne serait peu ou jamais utilisé.
Alors, il y a plusieurs chiffres, du coup j'ai choisi le moins effrayant, effectivement.
Un vêtement sur deux.
Mais ça veut dire que vous prenez votre budget shopping, ça veut dire que votre budget d'achat de vêtements, il est déjà amputé en moyenne, les Français, on utilise, si on prend 30%, ça veut dire qu'il y a 30% des vêtements qu'on achète qu'on ne met pas. Ça veut dire que déjà, on a 30% de notre budget shopping, entre guillemets, qui est disponible. Moi, je pense que choisir la mode éthique, c'est aussi une réflexion plus profonde sur ce dont on a vraiment besoin, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de porter, qui on est. Et donc, la mode véhicule beaucoup de valeurs symboliques très fortes. Et là, et si on choisit de réfléchir un moment à notre acte d'achat, on peut se tourner aussi vers des achats plus raisonnés, donc acheter moins, mais mieux, des choses qu'on va vraiment porter. Et puis, il y a le seconde main. Et puis, il y a les marques, les créateurs de mode éthique aujourd'hui qui connaissent un vrai essor. Et des marques comme la Gentle Factory, qui propose des vêtements à des prix qui sont pas non plus prohibitifs. Donc finalement, ça demande peut-être plus d'efforts de faire cette recherche. Mais si on est vraiment amoureux de la mode et qu'on aime son côté avant-gardiste qui permet de véhiculer des valeurs positives, je pense que ça vaut le coup.
Christelle Merter pour la Gentle Factory. Donc cette question de Caroline qui arrivait par courriel. L'éthique n'est-elle pas du luxe?
C'est pas du tout notre conviction. On veut vraiment faire la mode responsable la plus accessible possible, à la fois en termes d'accessibilité. D'accessibilité prix. Quand on vend un t-shirt à 30 euros ou à 35 euros, est-ce qu'on peut vraiment dire que le prix est déraisonnable pour acheter un produit qui a été fabriqué en France à partir de fibres recyclées et peut-être même confectionné par une entreprise adaptée qui favorise la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap? C'est pas notre conviction. On pense que c'est effectivement, ça reste un prix raisonnable.
Mais qui sont vos clients aujourd'hui? Vous discutez avec eux, vous savez qui sont ces gens qui acceptent de payer tout simplement le juste prix social et environnemental?
Alors, le juste prix, oui, on parle avec nos clients. On parle avec nos clients d'abord dans notre boutique de Lille, à la rue de la Grande Chaussée, où on a l'occasion, du coup, de papoter avec eux dans les grands événements, notamment pendant les soldes, puisque, en fait, on parlait de co-responsabilité. Il y a la responsabilité des distributeurs de produire le plus responsable, de façon la plus responsable possible, et la responsabilité également de nos clients d'acheter ce qui leur semble le plus responsable. Et pendant nos soldes, par exemple, on laisse nos clients choisir le taux de remise qui les intéresse en fonction de ce qu'ils veulent contribuer à financer par rapport au prix de revient, par rapport au coût également de l'équipe, etc., etc.
19h36, je vous propose de rejoindre Tahar qui nous appelle du Maine-et-Loire pour un témoignage sur le sujet qu'on évoquait il y a quelques minutes sur la qualité des vêtements, y compris les vêtements de grandes marques. Bonsoir Tahar.
Bonsoir France Inter, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je disais tout à l'heure à vos interlocuteurs avant de passer à la radio qu'il y a une époque, on pouvait acheter des chemises et on savait que ça allait tenir assez longtemps. Quand je dis assez longtemps, allez, 2-3 ans, parce que c'est des chemises blanches, donc c'est indémodable. Une chemise blanche, une chemise noire, une chemise grise, c'est indémodable, ça passe avec tout. Et aujourd'hui, ces mêmes chemises, c'est pas les mêmes d'ailleurs, et des grandes marques, je n'ai pas à citer de marques, mais tout le monde s'y reconnaîtra, les cols sont s'usent à la vitesse grand V, deviennent noirs tout de suite, et les endroits d'usure, c'est-à-dire les manches, s'effilochent très vite. Et je pense que vous-même, monsieur, vous avez certainement remarqué ça dans vos chemises.
Je vous le confirme tard.
Ah ben c'est parfait, donc j'ai eu raison de vous appeler. Alors moi je trouve ça complètement stupide d'aller se précipiter, d'aller acheter des chemises très très chères, sachant que pour le peu de temps que ça va durer. Voilà, et est-ce que vous pouvez me permettre de parler d'un reportage qui a été diffusé, je crois, sur Arte, et qui est lié au coton?
Permettez-vous? Je vous en prie, t'as...
Okay, oui. Non, parce que je...
Y a pas... Allez-y.
Non, on balance pas des trucs comme ça à la radio. Ça s'appelle... Peut-être que vos interlocutrices le connaissent, s'appelle 100% coton. Non, oui.
Est-ce que vous connaissez?
Non.
Dites-nous en quelques secondes.
Très bien, alors ça rejoint votre reportage. C'est-à-dire 100%, bien entendu, ce ne sont pas les chiffres, mais le sang des mains. Et voilà, 100% coton. Vous trouverez ça sur Internet normalement. C'est un reportage qui parle justement de la récolte du coton et que ça fait mal aux mains et puis on voit le sang, etc. Et bien entendu, on va en Chine, on voit énormément de choses très intéressantes. C'est un reportage bidon, je pense qu'il a été fait par France Télévisions.
Merci de ce témoignage et puis de cette proposition. Tahar, on ira voir le reportage sur les conditions de récolte du coton. Il y a le coton, il y a eu le Bangladesh avec l'effondrement du Rana Plaza en 2013 et son millier de morts parmi les ouvriers qui travaillaient dans des conditions invraisemblables, notamment pour Carrefour, Auchan, Camailleux et beaucoup d'autres, si l'on en croit les étiquettes retrouvées sur place. Qu'est-ce que cette catastrophe a changé pour ces enseignes de grande distribution? Maj de Linsbay.
Il y a eu des évolutions dans l'attente de transparence par les consommateurs. Il y a des reportings qui sont censés, c'est-à-dire des rapports qui sont censés être réalisés sur l'évolution des conditions de fabrication. Mais ce qu'il faut retenir en fait de cette catastrophe, c'est qu'elle est le produit d'un système assez massif qui a consisté simplement à un moment à changer le métier de la fabrication textile. C'est-à-dire que une entreprise qui crée des modèles qu'elle va commercialiser dans ses magasins, elle ne va pas forcément maîtriser toute sa chaîne de fabrication. Elle va chercher en fait l'entreprise qui peut le faire le plus vite et le moins cher, quelles que soient les conditions, parce qu'elle n'a pas toujours toutes les informations ou parce qu'elle ne s'en soucie pas. Et du coup, aujourd'hui, le gros enjeu, c'est justement cette maîtrise de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de valeur ou la chaîne de fabrication, qui permet en fait à une entreprise, une enseigne, une marque, de répondre à la question du client. Où est réalisé mon vêtement, dans quelles conditions, de quelle matière est-il constitué, de quel coton, etc., etc. Et c'est ça, c'est vraiment cette transparence, cette maîtrise, cette traçabilité qu'il faut retrouver aujourd'hui, qui est à la base de toute évolution positive, à mon avis, pour les grandes marques.
Christelle Merter, est-ce qu'aujourd'hui, au Bangladesh ou ailleurs, on continue de produire des vêtements à très bas coût, dans des conditions de travail qui sont à la fois dangereuses et totalement inhumaines?
Je me prononcerai pas du tout sur le Bangladesh, puisque aujourd'hui la Gentle Factory ne produit qu'en France. Nos tricoteurs, tisseurs, confectionneurs sont sur le territoire français, donc je serais bien mal placée aujourd'hui pour faire du coup un commentaire sur le Bangladesh.
Mais est-ce que vous avez eu des informations au Maj de Linsbay? Est-ce qu'il y a un avant et un après Bangladesh?
Clairement, il y a un avant.
Clairement,
il y a un avant et un après Rana Plaza. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience de toutes les enseignes de la distribution dans le prêt-à-porter autour de l'éthique sociale et de la transparence et de la vérification de ces conditions de fabrication dans les usines de production.
Alors Caroline, Justine et Pierre, qui préparent avec moi le téléphone sonne, ont contacté ces grandes enseignes, Camailleux, Carrefour, Leclerc, Auchan, Gosport. Personne n'a voulu participer à l'émission, même par téléphone. Alors je sais bien que nous sommes un jour férié, mais oui, bien sûr. Tout de même, c'est la preuve, selon vous, qu'il y a toujours un malaise, une sorte de tabou autour de cette question de l'éthique pour les grandes marques, Maj de Linsbay.
C'est difficile de parler en leur nom. Ce qui est certain, c'est que c'est une préoccupation qui grandit chez les citoyens, les consommateurs. Il y a des mouvements qui se mettent en place. Par exemple, les créateurs de mode éthique se réunissent ensemble justement pour essayer de, c'est-à-dire des créateurs, des marques de mode éthique, elles se réunissent. J'ai parlé de ce qui est les initiatives que nous prenons dans les Hauts-de-France avec Nordcréa, mais il y a aussi par exemple Slowyar, qui est une plateforme en ligne où il y a toutes les marques de mode éthique, il y a une autre mode éthique possible, qui est aussi un label. Et donc, elles essayent aujourd'hui de proposer des alternatives aux consommateurs qui sont totalement transparentes. Donc, je crois qu'il y a quand même des choses qui évoluent positivement. Mais après, moi, je pense que c'est aussi aux auditeurs, aux consommateurs qui nous écoutent, de leur poser des questions, d'interpeller. Plus il y aura cette préoccupation partagée, plus on montrera en fait que le marché a évolué, qu'aujourd'hui, les consommateurs sont peut-être prêt à payer un prix plus juste pour des vêtements effectivement de meilleure qualité et conçus dans des meilleures conditions.
Alors les auditeurs de France Inter se sentent très concernés. Beaucoup de questions nous arrivent par courriel, notamment celle d'Agnès qui nous dit qu'elle fait de l'assemblage textile en utilisant toute la matière dans un mètre de tissu. Elle nous dit « J'ai trouvé une méthode particulière pour assembler des petits bouts de tissu. Je m'évertue à donner du sens à mon travail par rapport à d'éventuels acheteurs et pourtant je ne trouve pas de débouché. À qui s'adresser et comment développer mon activité ? Qui veut répondre à Agnès ?
Eh bien, elle peut prendre contact avec la Gentle Factory. Nous, on est toujours très friands de nouvelles initiatives sur des techniques de production. Donc, j'imagine qu'elle fait écho à l'emploi du tissu qu'il faut pour réaliser un vêtement et dans une optimisation accrue. Donc, avec grand plaisir pour nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre site www.lagentlefactory.com.
J'avais anticipé la réponse à la question avec une autre mode est possible et Slowyar qui sont des plateformes qu'elle peut retrouver en ligne. Et la question que pose cette auditrice sur le gaspillage vestimentaire est très importante. Les chutes, par exemple, de fabrication au moment de la fabrication des vêtements, on voit que dans le gaspillage alimentaire, il y a eu une évolution très positive. C'est une préoccupation qui est grandissante. Il y a eu l'interdiction aussi de la destruction de produits alimentaires, etc. Donc, moi, je pense que dans le textile, il faut que ça évolue dans le même sens, qu'on ne puisse plus, effectivement, gaspiller autant de tissus qui a nécessité et de vêtements qui ont nécessité autant de ressources naturelles pour être fabriqués.
Alors, autre question d'auditeur arrivée par mail, toujours sur cette question du gaspillage. Avec toute cette production de vêtements, que deviennent aujourd'hui les invendus ? Christelle Merter.
Alors nous, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On construit nos collections avec des collections d'intemporels qui, du coup, sont toujours à la mode saison après saison. Enfin, après, on en est qu'à notre quatrième saison d'exploitation en tant que marque à part entière. Donc aujourd'hui, on n'est pas confronté à cette problématique d'invendu.
Majdoulin Sbaï, vous n'allez pas parler pour Zara, mais 12 000 produits différents.
12 000 modèles différents chaque année.
Les invendus deviennent quoi ?
Les invendus, alors déjà, il y a beaucoup de choses qui sont achetées en solde. On estime que c'est 45 à 50% des vêtements qui sont achetés en solde, ce qui contribue d'ailleurs à la difficulté du marché. On parlait des difficultés économiques que suscitait ce modèle de la fast fashion. Et puis ensuite, beaucoup partent en solderie. Il y a quelques opérations aussi de solidarité qui sont menées par des marques, qui donnent à des associations. Mais quand même, c'est dommage d'évaluer autant des produits qui ont nécessité, comme je l'ai dit, des ressources naturelles, du savoir-faire, qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour arriver en magasin et finalement être vendus pour un prix très modique. Donc on est vraiment dans un système qui atteint ses limites.
Donc les invendus soit, mais les vêtements que nous, consommateurs, jetons, c'est aussi considérable. J'ai lu que chaque Français jetait 12 kilos de vêtements chaque année. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que c'est la flemme d'aller jusqu'à un point de collecte ? Ou c'est simplement parce que les vêtements ne sont pas recyclables, ils sont dans un trop mauvais état.
Tous les vêtements sont recyclables. Et en fait, si on a bien une chose à dire aujourd'hui, dans la responsabilité des clients et des consommateurs, c'est que finalement, le vêtement qui pollue le plus, c'est le vêtement qui reste au fond du placard et qu'on n'utilise pas. Et notre responsabilité à tous en tant que citoyens, c'est de le recycler. Qu'il ait un trou, qu'il ait une tache, c'est pas grave, on le met. Ben, soit on le rapporte dans certaines boutiques qui ont des points de collecte, c'est le cas par exemple de notre boutique à la Gentle Factory, soit on le met dans des points de collecte auprès de collecteurs de renom, de renommée sur la France. Je pense notamment au Relais.
Il y a des bornes. Hein, oui.
Il y a des bornes à peu près partout. Enfin, c'est assez simple d'en trouver. Et ensuite, vous pouvez aller aussi sur le site La Fibre du Tri, qui recense tous les points de collecte. www.lafibredutri.com Com, je pense, qui est géré par EcoTLC, qui est l'organisme qui gère l'entièreté de la filière de recyclage. Donc c'est là où on peut tous agir.
Sur le recyclage, Majdouline Sbaï, vous sentez un commencement de frémissement, de prise de conscience ?
Oui, on sent les tonnages de collecte évoluent positivement, c'est-à-dire qu'on collecte plus chaque année, et ça c'est très positif. C'est dû aussi au travail effectivement des EcoTLC, de la fibre du tri, enfin d'un certain nombre d'organismes. Et donc chacun peut avoir cet acte qui consiste à prendre ce qu'il a dans son placard qu'il ne porte pas, surtout ne pas le mettre à la poubelle classique, mais l'apporter dans un point de collecte. Et il y en a, on l'espère, de plus en plus chaque année. Et ça permet de redonner une seconde vie à ces vêtements.
Si je peux rebondir, nous, on a vraiment noté, on interroge tous les 6 mois nos clients pour savoir finalement par rapport à tous nos piliers ce qui les intéresse. Alors, la fabrication française reste de loin l'item le plus intéressant pour nos clients d'un point de vue responsabilité sociale et d'un point de vue responsabilité environnementale. Quand on a démarré, c'est les fibres biologiques qui intéressaient beaucoup nos clients et on a vu une vraie bascule sur l'intérêt de nos clients autour de la consommation de produits faits à partir de fibres recyclées. Et je pense que toutes les communications qui sont faites aujourd'hui en presse et sur la télévision nous aident aussi beaucoup pour justement valoriser ces opérations de recyclage.
Alors justement, une question d'un auditeur via Twitter, le hashtag Telson. Quelles sont aujourd'hui les fibres textiles dont le bilan écologique et social sont les meilleurs ? Christelle Merter, vous travaillez avec quoi ?
D'un point de vue du coup environnemental et social, définitivement, c'est le coton recyclé et le polyester recyclé qui permettent de réduire de façon drastique l'empreinte environnementale. Et en général, les opérations de recyclage sont faites par des entreprises qui favorisent la réinsertion professionnelle. Et donc du coup, d'un point de vue social, on est aussi mieux disant par rapport à ces fibres-là. Mmh. Après, il y a un débat hyper intéressant sur le lin qui effectivement est cultivé en France et qui consomme relativement peu d'eau. Et après, en fonction de la façon dont on va analyser l'analyse de cycle de vie du produit, entre je repasse ou je repasse pas ma chemise en lin, le bénéfice sera bon ou sera moins bon.
Le téléphone sonne. Arnaud Bousquet sur France Inter.
Avec l'appel de Stéphane du Finistère. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons pour votre témoignage et votre question.
Voilà, je me posais une petite question parce que j'achète depuis quelques années des habits à une petite société française et je me demandais quelles étaient ses origines, enfin ou l'origine des produits qu'elle me vend, qui sont disponibles dans certaines grandes surfaces mais pas dans toutes. Et où nulle part sur aucune étiquette n'indique le made in quelque part.
C'est pas obligatoire, c'est toujours pas obligatoire, Majdouline Sbaï.
Non, la seule obligation c'est la composition en fait des produits. Mais il n'y a pas d'obligation à indiquer l'origine. Dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est suite au Rana Plaza, il y a un grand mouvement qui est né au niveau international qui s'appelle la Fashion Revolution, c'est un mot anglais, désolé, mais et qui interpelle en disant où sont faits et comment sont faits mes vêtements. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la seule façon de savoir, c'est de se retourner vers la marque et demander des explications sur le d'où viennent les vêtements.
À la Gentle Factory, des étiquettes taille A4 parce que tout y figure, les procédures de confection, les réseaux de distribution.
Sur le produit en direct, on a essayé d'être le plus simple possible. Donc on met que c'est fabriqué en France et on met quel est le bénéfice environnemental du produit s'il est fait à partir de fibres biologiques, recyclées ou fait par une entreprise adaptée. Par contre, sur chacune des fiches produits sur notre site, vous trouvez exactement l'entièreté de la chaîne de fabrication du tricotage en passant par la confection et la sérigraphie.
Direction maintenant Annecy où patiente Nourdine. Bonsoir Nourdine.
Oui, bonsoir.
Une réflexion sur un métier.
Oui, tout à fait. Je me disais qu'il y a un métier qui a un peu disparu, c'est le métier de couturier, couturière. Où il y a une certaine époque où je me rappelle, on pouvait emmener un vêtement tiré ou trop grand, trop petit chez un couturier ou une couturière. Qui allait le réparer, lui donner une seconde vie et faire en sorte qu'on va l'utiliser beaucoup plus longtemps que aujourd'hui le métier a disparu, les qui restent coûtent quand même assez cher et du coup un vêtement un peu abîmé, il finit à la poubelle. Alors comment faire ressurgir ces métiers? Ça donnerait à la fois du travail à des gens et ça permettrait de faire durer plus longtemps l'usage de nos vêtements.
Qui veut répondre? Merci Nouadine de votre appel. Qui veut répondre, Majd Nsbaï?
Je l'avais noté en grand justement tout à l'heure suite à la question sur le recyclage des vêtements. Déjà, allonger la durée de vie de ces vêtements, c'est un acte éthique, c'est-à-dire faire en sorte de les réparer, de leur donner aussi, de pouvoir les transformer éventuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est culturellement moins présent, mais ça se redéveloppe et c'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il existe le phénomène des tiers-lieux ou des Fab Labs. Enfin, c'est des lieux où on réapprend des savoir-faire, les repair cafés, des endroits où on répare les choses, les objets.
Et donc, on répare soi-même.
Hein. On répare soi-même. Et donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que moi, je plaide et j'en parle dans le livre justement pour ce genre de solutions qui permettent en fait aussi de réapproprier ses vêtements, de pouvoir se distinguer aussi par rapport à ça, en les customisant éventuellement quand ils arrivent en fin de vie. Et ça a un autre intérêt, c'est que c'est un autre type de service que peuvent proposer des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, et je pense que la Gentle Factory pourra en parler, aujourd'hui, il y a des entreprises, des marques qui commencent à proposer des services de réparation, de transformation, de customisation, même des vêtements de seconde main, soit en ligne, soit directement dans leur boutique. Et ça, c'est une évolution très positive parce que vous proposez du service et non pas des produits, donc vous réduisez aussi votre impact environnemental.
Oui, nous, Christelle Merter pour la Gentle Factory, oui. Vous allongez la durée de vie de vos propres produits.
Pas forcément de nos propres produits. On fait deux types d'ateliers. On fait un atelier où on invite nos clients à du coup faire de l'upcycling. Donc on leur met à disposition un article et on vient nous avec nos chutes de produits, etc. pour pouvoir le customiser et en faire un produit à valeur ajoutée qui du coup est à l'identité même du client et donc du coup on se distingue aussi par rapport à ça et donc c'est une réponse par rapport à nos attentes et notre différenciation et également des ateliers pour pouvoir réparer ces produits et c'est notre modéliste qui anime ces ateliers dans notre boutique.
Alors une question toute bête mais pour allonger la durée de vie des vêtements faut aussi changer sa façon d'entretenir ces vêtements, peut-être les laver moins souvent ou les laver différemment.
C'est clair.
Oui, Christelle Merter.
En fait, si vous prenez le bilan environnemental d'un produit, vous vous rendez compte que la moitié du bilan environnemental provient de ce qui se passe quand l'usine produit le vêtement et l'autre moitié provient de ce qui se passe une fois que le client il a acheté son produit. Donc ça, c'est dans le fait de dire qu'on est tous responsables, dans la façon dont on va entretenir nos produits, on a une responsabilité. Et là, c'est juste un calcul mathématique. Moins on va laver son produit, moins on aura un impact sur l'environnement et plus on va prendre soin de lui de façon à ce qu'il dure le plus longtemps possible. Et donc en réduisant la température de lavage, en n'utilisant surtout pas le sèche-linge, ça c'est vraiment totalement prohibitif, en le laissant sécher à l'air libre et en faisant également attention au repassage et à son temps de repassage et à la température.
Et là on verra que miraculeusement la chemise tient un peu plus longtemps.
Mais quoi qu'il en soit, si vous les achetez sur la Gentle Factory, moi je vous mets au défi une chemise qui ne soit pas encore au goût du jour dans 3 ans.
Question de Fabienne qui nous a contactés par mail. Dans les années 70, nous dit Fabienne, la mode des textiles naturels et non teintés était là. Ne pourrait-on pas revenir à la production de textiles naturels pour diminuer l'impact écologique de l'industrie de la mode? Pourquoi on n'utilise plus le chanvre qui est un textile merveilleux? Est-ce qu'on y revient, Majdou Insbaï?
Alors, bon, matière recyclée, c'est la base parce qu'il faut réemployer tous ces textiles qu'on jette ou dont on n'a plus besoin chaque année. Mais effectivement, je suis absolument d'accord avec cette auditrice. Le chanvre, l'ortie, le lin, je pense que ce sont vraiment des matières dont on n'a pas tiré tous les avantages. Et évidemment, au moment de leur production, c'est-à-dire de la culture, on utilise peu d'eau et pas de pesticides. Et en plus, il y a par exemple, si je prends, elle a parlé du chanvre, mais j'ai découvert dans les travaux que j'ai menés, par exemple l'ortie et une matière qui s'appelle le rami qui a des propriétés thermiques. Enfin, on voit qu'en matière de recherche et développement sur les matières, que ce soit en matière de matières recyclées ou en matière des matières naturelles comme celle-là, il y a beaucoup à faire.
On va conclure l'émission avec une remarque, une réflexion intéressante de Bruno qui nous appelle depuis le département de l'Allier. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Donc, je voulais intervenir surtout pour citer la société Emmaüs, qui donc fondée par l'abbé Pierre depuis 1946, recycle des vêtements. Et donc évidemment, on n'a pas toutes les tailles, mais donc eux, ils n'ont pas attendu la mode pour le faire. Et donc mes enfants et moi-même et ma femme, donc moi je suis motard, je trouve des blousons de cuir à 50 €. J'ai pas envie de mettre 600 ou 700 € dans un blouson de cuir. Et mes enfants ont des shorts, des choses. Alors évidemment, c'est pas la dernière mode, mais comme ce qui a été à la mode il y a 50 ans revient actuellement, je peux inciter tout le monde à faire un tour chez Emmaüs. Il y en a forcément près de chez vous. En plus, il y a donc des gens qui sont en difficulté d'insertion sociale qui sont employés. Et donc, vous ferez donc une double bonne action, à la fois écologique et à la fois sociale.
Et ben voilà pour cet appel, effectivement, rappeler que Emmaüs était peut-être la première alternative éthique et sociale à la mode vestimentaire. Merci beaucoup de cette remarque. Pour conclure, Majdouline Sbai, vous êtes roubaisienne, vous connaissez mieux que personne les réalités de ce qu'on appelle la filière textile. Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer transformer vos initiatives locales en modèles, c'est-à-dire vraiment changer d'échelle?
C'est une formidable opportunité aujourd'hui pour reconstruire et de maintenir cette filière textile. Moi, j'y suis attachée en tant que roubaisienne. J'ai vu s'effondrer les châteaux de l'industrie manufacturière qui fabriquait du vêtement. Moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que nous redevenions des leaders du textile, mais de la mode circulaire, de la mode écologique. Et c'est possible aujourd'hui. On en a les moyens. On a besoin d'une alliance entre entreprises, chercheurs, journalistes, influenceurs et puis tous ceux qui veulent avec nous penser ces questions.
Christelle Merter, même question. Est-ce que l'initiative de la Gentle Factory, ça sera la norme dans quelques années?
C'est tout ce que je nous souhaite. En tout cas, ça fait 5 ans qu'on existe. Si on s'était dit il y a 5 ans qu'on réussirait à produire en France et à les commercialiser de façon nationale des t-shirts fabriqués en fibres recyclées à un prix relativement raisonnable, on nous aurait tous pris pour des fous. Et au final, on le fait. Donc, qui sait où on en sera dans 4 ans et combien auront suivi un modèle qui leur sera propre aussi autour de l'économie circulaire.
Et on vous trouve dans la plupart des grandes villes aujourd'hui?
Oui, dans des détaillants. Et vous avez la liste de tous nos points de vente sur notre site www.lagentlefactory.com.
Et avec un magasin.
Oui.
Un seul pour l'instant?
Un seul pour l'instant.
Bon, mais appelé à se multiplier, on l'a bien compris. Je vous remercie en tout cas Christelle Merter, Majdouline Sbai, d'être venue jusqu'à nos studios parisiens, même un 15 août. Christelle Merter, la Gentle Factory, donc une marque présente dans une trentaine de villes en France pour l'instant. Et Majdouline Sbai, l'entreprise après la chute implantée dans les Hauts-de-France, et votre livre que vous avez apporté, Une mode éthique est-elle possible? C'est paru cette année aux éditions de la rue de l'Échiquier. L'émission de ce soir, que vous pouvez réécouter en podcast ou directement sur notre site franceinter.fr, était réalisée par Clément Nouguier. À la technique, il y avait Ludovic Asselot et Tristan Gratalon. Merci à Caroline Baudry, Justine Bilray et Pierre Gaufre qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Et demain, 19h15, finalement, on sera dans le prolongement de l'émission d'aujourd'hui. Après la version textile, je vous proposerai la version transport. On s'intéressera au modèle low cost, Ryanair, Uber, et on se demandera si le système n'est pas arrivé en fin de course.